Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Tout d'un coup, il est pris d'un élan sentimental et va s'allonger à côté de son ami. Et lui dit : « Nous serons que nous deux. Personne ne nous embêtera. Il n'y aura plus d'école. » Gilles lui demande : « Et que ferons-nous ? Nous rebâtirons la cabane. Et pour manger, nous pêcherons et nous mangeons des fruits. » Jules, qui n'est qu'un enfant, lui aussi se met à rêver. « Oui, nous serons très bien tous les deux. Oui, très bien. » On a frappé à la porte. « Je veux être mon père. Entre, papa. » Le père est entré. « Monsieur Jules, votre père vous attend. » Jules est pâle et se dit : « Nous aurions eu le temps de partir au lieu de discuter. Maintenant, il est trop tard. Il est trop tard pour s'enfuir. » Et Jules n'est même pas habillé. Monsieur Martin lui dit : « Il faut vous presser. Votre père vous attend. » Tout à coup, le corps de Gilles se serre. Il se dit qu'il ne reverra peut-être plus son ami. Alors d'un coup, les larmes aux yeux, il plaque son ami contre lui, contre sa poitrine. « Je ne veux pas te quitter. » Il serre tout contre lui Gilles, qui s'abandonne. Gilles, lui aussi, a envie de pleurer. Martin s'avance et leur dit : « Allons, dites-vous au revoir. Vous reverrez pour les vacances. Monsieur Jules, soyez raisonnable. Votre père vous attend. » Gilles lui dit : « Il faut obéir. Je te promets que se reverra. » Cette phrase donne l'impression à Jules que Gilles le trahit. Mais il ne veut pas le savoir. Serre très fortement son ami, l'embrasse et lui dit « Je m'en vais, mais nous nous reverrons. » Gilles lui dit « Oui, et tu m'écriras de Lyon. » Jules se dit que s'il lui a demandé de lui écrire, c'est qu'il ne croit pas à leur retrouvaille. Le cœur brisé, Jules se dégage de son ami et se lève. Au revoir, Monsieur Martin. Au revoir, Jules. Ne soyez pas triste. Et Jules s'en retourne. Il retrouve son père dans le hall au milieu de valises.
Où étais-tu ?
Jules ne répond pas.
Tu étais voir Gilles. Je t'avais interdit. Il est temps de retourner à Lyon.
La porte du salon s'est ouverte. C'est sa mère. Elle va vers eux. Et dit à son mari,
« Ce n'est qu'un enfant. Sois pas trop sévère avec lui. Ne le compare pas à son grand frère qui n'est qu'un voyou. »
Tu as raison. Allez, mon petit, va dans ta chambre. Et vois avec la femme de chambre ce que tu as amené.
Jules obéit. Ce mon petit de son père lui fait chaud au corps. Pourtant, c'est lui qui l'éloigne de Gilles. Ils sont partis en fin de matinée. Jules n'a pas revu Gilles. Charles-André ne bronche pas, sa sœur le regarde. Les parents, durant le trajet, parlent des événements politiques. Le voyage se fait dans des routes baignées de soleil, routes poussiéreuses. Il fait très chaud dans la berline. Après une heure de trajet, ils sont blancs de poussière. Leur visage ressemble à des momies. Momies d'un monde qui s'éteint. La fin d'une époque qui se termine par le sang, les cris, la mort. Pour connaître une nouvelle vie avec de nouveaux hommes, une nouvelle élite. Après de nombreux arrêts, ils sont enfin arrivés à Lyon. La ville est dans l'attente des événements.
Le père inquiet va aux nouvelles, voir des amis. La mère a reçu l'ordre de commencer à chercher une pension pour Charles-André. Apolline dit à sa mère qu'elle veut aller elle aussi en pension. Sa mère lui demande « Pourquoi souhaites-tu aller en pension ?»«
Je veux avoir la même punition que mon frère. »
« Et pourquoi ?»«
Il a volé, c'est pour moi aussi, parce qu'il voulait que nous partions ensemble. »
« Vous êtes comportés comme deux imbéciles. Et pour partir pourquoi ? Et aller où ? Votre père a raison. Il faut que vous reveniez à la réalité, à la raison. Vous n'êtes plus des enfants. À cause de vous, Jules est puni lui aussi et risque la pension. Mais si tu veux la pension, je ne dis pas non. En attendant, vous allez finir vos vacances dans vos chambres et étudier. »
Jules bâcle ses devoirs pour pouvoir lire des romans d'aventure. Il rêve encore à son île et à Gilles. Heureusement qu'il a la capacité de rêver, car être enfermé toute la journée, cela le rendrait malade.
Le 9 août, chute d'Émile Olivier. Le 12 août, Napoléon se démet du commandement en chef des armées.
Constantin est assis avec sa femme au salon, l'un en face de l'autre. C'est le soir, la maison est silencieuse. Elle lui demande
« Que va devenir la France ?»«
Les royalistes et les républicains vont se battre pour ramasser le pouvoir. L'impératrice est dans l'illégalité. Elle a la régence, mais elle leur règne. Elle s'imagine préserver le pouvoir pour son fils. Mais le temps est fini où l'on pouvait créer des dynasties.
Que va devenir l'empereur ?
Il sera destitué. Il est déjà en partie. Je suis sûr que tous ses ordres ne sont plus exécutés.
Pauvre France.
Oui, pauvre France, qui risque de tomber dans l'anarchie.
Jules écrit des lettres à Gilles, mais n'a pas de réponse. Cela l'attriste beaucoup. Gilles ne répond pas parce que son père lui dit de ne pas le faire.
Monsieur Constant ne serait pas content s'il l'apprenait.
Pourquoi ? Parce que son père ne veut pas que l'on se voie.
Il ne veut plus que son fils s'amuse avec un enfant. Tu comprends ?
Les jours passent. Le 30 août, bataille autour de Sedan. La mère donne la permission aux enfants de sortir accompagnés de leur bonne. Jules rêve de prendre le train pour partir loin avec Gilles. Il ne reste plus qu'un mois de vacances. Et c'est qu'ensuite, la routine va l'enfermer. Il veut qu'il se passe quelque chose, qu'il lui arrive quelque chose. Il étouffe dans sa chambre. Avec ses livres, des livres qui ne font que lui parler que d'îles merveilleuses, de trailers, d'aventures. Cela lui met le feu au sang. Et puis il a envie de revoir Gilles. L'amour qu'il a pour Gilles est pur. Il n'a aucun désir, seulement celui d'être près de lui. Enfermé dans sa chambre, où les histoires des autres ne lui suffisent plus, il a envie d'avoir une à lui. Il rêve de partir. Il en oublie sa famille et tous les inconvénients. Comme il voit les jours passer et qu'il sait que bientôt il sera trop tard, il veut passer à l'action. Il regarde ce qu'il a comme argent de poche, voit le prix des billets pour aller à Biarritz ou le plus près possible, mais n'ose pas aller à la gare. Tant pis, le jour de mon départ, je demanderai. Décide de partir tôt le matin avec un petit sac de voyage où il mettra à manger quelques vêtements et des livres qu'il aime bien. Pour la nourriture, à chaque repas, il met dans sa poche ce qu'il peut. Un morceau de pain, de gâteau, sac, des bonbons, des chocolats, du sucre, qu'il va cacher dans son sac. Il décide de partir un lundi, car c'est le lundi, premier jour de la semaine. Et père voyage pour ses affaires. Mère s'occupe avec les domestiques du rangement de la maison, du désordre du dimanche. À 6 heures, il se lève.
Il s'habille d'un costume neuf d'été. Met dans un sac quelques vêtements et des livres. Et sort de sa chambre en évitant de faire du bruit.
Lorsqu'il sort de la chambre, en longeant le couloir, il ne fait pas de bruit. Passant devant les portes des chambres de ses parents, son frère, sa sœur, il lui semble que derrière les portes se trouve un silence pesant qui fait peur. Il descend les escaliers qui sont heureusement de pierre et ne font pas de bruit lorsqu'il y pose des pieds. Il a une exaltation étrange, se sent heureux d'être passé à l'action, de ne plus faire partie de ce monde. D'être passé de l'autre côté du miroir. En bas des escaliers, il entend les domestiques qui s'affairent, comme chaque matin, aux occupations de la préparation du petit déjeuner et de la toilette matinale. Enfin, la porte d'entrée. Vite, allez l'ouvrir. Heureusement qu'elle ne fait pas de bruit. Et puis, les domestiques sont tellement occupés. Dehors, il faut courir jusqu'au portail, en priant que personne ne vous voit par la fenêtre. Ouvrir le portail, qui est un peu dur, et hop, dehors, vite. Dehors, il faut courir jusqu'au portail, en priant que personne ne vous voit de la fenêtre. Mais là aussi, il faut courir jusqu'à ce que l'on ne puisse pas être vu de la rue. Voilà, on est assez loin. Soufflez un peu, marchez normalement. Le jour commence à se lever, les gens sortent des maisons, les magasins s'ouvrent. Les chariots de livraison se mettent en marche. Ce sont les gens du peuple qui sont dans les rues à cette heure, avec leurs musettes, casquettes, blouses et galoches. Certains fument, ils ont le regard triste des gens qui vont commencer la journée sans goût. Les cafés se remplissent, les marchands de casse-saison se préparent. Jules voit tout ça avec tristesse. C'est la première fois qu'il est dehors si tôt et voit la ville se réveiller. Il a l'habitude des beaux quartiers, avec des gens se levant plus tard. Il se dirige vers la gare. Avant d'y entrer, il hésite. Ne va-t-il pas se faire remarquer? Ne fait-il pas trop jeune pour prendre le train seul? De toute façon, au point où il en est, il ne peut pas reculer. Il est entré dans le hall qui lui semble immense. S'approche d'un guichet où c'est marqué billet. La gare est presque vide. Il voit une tête avec une moustache et une casquette. Jules sort son argent et demande « Est-ce que cela suffit pour aller à Biarritz ?» L'homme surpris le regarde. Il hausse les épaules. De toute façon, son travail à lui, c'est de donner des billets. Il compte l'argent et dit « Non, il en manque !» dit-il avec soulagement. Comme cela va clore la chose. Jules n'ose pas demander combien il lui manque. Il regrette de ne pas avoir demandé jusqu'où il aurait pu aller. Mais enfin, il s'éloigne du guichet. Tu voulais aller où, mon jeune homme? Il se retourne surpris et voit l'homme qui vient de lui parler. Il est de taille moyenne, mince, cheveux noirs qui ondulent, petite moustache. Mince et yeux tout ronds, bleu foncé. Il porte un costume gris qui semble tout près de son corps.
Je désirais aller où?
Tu désirais aller où? Pour que je puisse t'aider, si tu veux, bien sûr.
Je devais partir pour Biarritz.
Seul?
Oui, monsieur.
Tes parents te laissent voyager seul?
Oui, monsieur.
Ne m'appelle pas monsieur. Je m'appelle Tonton Georges. Tu as l'air
sérieux et gentil. Je veux bien t'aider.
Il sort de sa poche une boîte de bonbons, l'ouvre et lui dit
« Tiens, prends-en un !»
C'est ce que fait Jules et le tonton lui dit
« Écoute, nous allons discuter de tout cela. Nous pouvons le faire chez moi si tu veux, devant une bonne tasse de chocolat. Tu aimes les chocolats ?»«
Oui, monsieur.
Allons, viens !»
Le tonton lui prend la valise, le tient par l'épaule. Jules le suit un peu apeuré tout de même.
L'homme le mène dans un dédale de rue, sur les pentes de la Croix-Rousse, rue lépreuse, humide, où l'on entend le bruit du bistan-clac des canuts. Arrivé devant un immeuble un peu moins lépreux que les autres, l'homme lui dit « C'est ici, chez moi !» et il va ouvrir la porte de l'immeuble.
L'allée est étroite et noire. En entrant, Jules a la chair de poule.
C'est au troisième.
Il monte les étages. Ça sent humide et mauvais. Jules n'est jamais allé dans un endroit pareil. Il aimerait s'enfuir, mais n'ose pas.
Allô?
Pousse Jules dans l'appartement et ferme la porte. Un petit couloir gris.
Tonton va ouvrir une petite porte vitrée. Entre. Jules entre. La pièce est presque vide. Il y a deux chaises. Assieds-toi sur la chaise. Jules s'assoit sur la chaise.
En plus des deux chaises, il y a une table et un lit divan défait. Jules, en voyant tout ça, a peur et se demande s'il ne devrait pas partir. Mais il n'ose pas. L'homme va s'asseoir en face de lui.
Il lui dit « Alors, d'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu as fait ?»«
Rien, monsieur. De chez moi. »«
Et qu'est-ce que chez toi? Avec tes vêtements tailleurs, tu dois être d'une bonne famille. »
Je ne réponds pas. L'homme sourit.
Ça ne fait rien. Tu me plais. Si tu veux voyager, nous voyagerons. Tu veux du chocolat ?
Jules ne dit rien.
Ne sois pas timide. Je vais t'en apporter.
Il se lève et sort de la pièce.
Jules aimerait courir et sortir de l'appartement. Il regarde autour de lui, voit sur le divan un gros chat noir qui fait semblant de dormir. Au-dessus du divan, un tableau représentant un portrait d'enfant sage qui lit. Sur une commode, une statuette en bronze d'un jeune adolescent à l'antique. L'homme est revenu avec un plateau et tout ce qu'il faut pour un petit déjeuner. Il va le déposer sur la table.
Il remplit la tasse d'un café chaud.
Tu veux du sucre ?
Non, oui, monsieur.
Deux cuillères ?
Oui.
L'homme le sert. Après avoir servi l'enfant, il s'assoit.
Et lui demande
« Ça fait longtemps que tu es dehors ?»
Non, monsieur. Après avoir bu une gorgée, mange une brioche. Tu dois avoir besoin de te reposer. Déshabille-toi, allonge-toi sur le devant. J'ai pas sommeil, monsieur. Avant de partir, il faut que tu sois reposé. Jules se lève et enlève sa veste.
Maintenant, la chemise et le pantalon. Allez. L'enfant s'exécute.
Cela commence à l'énerver. Il ne s'est pas enfui pour être sous les ordres de ce fou.
Quitte ton caleçon. Jules le regarde. Allez, fais-le. N'aie pas peur. Je suis un homme, moi aussi. Tiens, regarde.
Et sur le regard de Jules, l'homme se met nu. Cette nudité le surprend plus qu'elle ne le trouble et ce corps d'adulte ne lui donne aucun désir. Avec ce grand sexe qui bande, ses poils, il trouve l'homme plutôt ridicule qu'autre chose. L'homme lui dit
« Allons maintenant, montre-toi, toi aussi. »
Jules ne bouge pas. L'homme s'avance vers lui pour lui descendre son caleçon. Jules est plus en colère que gêné. Ne comprend pas ce qu'un adulte peut lui vouloir, à lui, pas fini. L'homme se baisse et le regarde sur toutes les coutures. Il lui donne des baisers de partout et le caresse. Jules, malgré lui, a chaud.
Tu es beau. Nous serons très heureux tous les deux. Tu verras. Tu verras. Viens. Viens, mon petit.
Il le mène vers le divan, le fait allonger, et l'homme s'allonge près de lui.
Jules n'ose pas bouger. L'homme recommence à lui donner des baisers de partout, et même à mettre son sexe dans la bouche. Jules, malgré lui, a du plaisir. L'on l'a frappé à la porte. Ils se sautent tous deux.
N'aie pas peur, je n'ouvre pas. Ils ne peuvent pas rentrer.
J'aime mieux m'en aller, monsieur. J'aime mieux m'en aller.
L'on frappe encore. L'homme lui caresse ses cheveux. Ouvrez, police!
L'homme se lève.
N'aie pas peur, habille-toi et ne bouge pas.
Je veux partir, monsieur. L'homme met en vitesse son pantalon et une chemise.
L'homme sort de la chambre. Pendant ce temps, Jules se lève. Il s'habille en vitesse.
Il entend que l'homme a ouvert la porte.
Alors Antoine, je crois que tu es bon. Comment cela ? Ne te fatigue pas. On t'a vu à la gare avec le jeune. On a attendu un moment pour que t'en prennes en flagrant délit.
Où est le petit ?
Mais...
Tu étais au lit avec lui.
Tiens, tiens.
On va t'emmener. Où est ta chambre ?
Ne mets pas le droit.
Laissez-nous regarder.
Ils ouvrent toutes les pièces.
L'homme soupire désespéré.
Vous avez gagné. Ne faites pas de mal au petit.
Où est-il ?
Dans la chambre. Là.
La pièce est vide. Jude est allé dans le cabinet de toilette qui communique à la chambre. Et là, il a ouvert la fenêtre et a vu qu'elle donnait sur les toits d'autres immeubles. Il cherchait à savoir s'il y avait danger. Il est sorti par la fenêtre et s'est trouvé sur les toits. Là, heureusement, pas de vent ni pluie. Il marche sur les toits de plusieurs immeubles sans savoir où il peut et comment descendre. Enfin, il voit une trappe qui donne à un grenier. Sans hésiter, comme s'il avait fait ça toute sa vie, avec son pied et ses grosses chaussures, il donne deux coups pour casser la vitre. Il passe la main et ouvre la trappe. Puis, il saute dans le grenier. C'est une pièce remplie de bric-à-brac. Il cherche sa sortie en faisant attention où il marche car le parquet semble pourri et il y a des trous. Voilà la porte. Elle est fermée, bien entendu. Et c'est une simple porte en bois. La serrure est tout ce qu'il y a de plus précaire. Je vais la faire sauter. Il cherche autour de lui et voit une barre de fer. Avec cette barre de fer, je vais essayer de fixer la serrure à la porte.
Après de nombreux efforts, la serrure qui tenait par quatre trous, rouillés, cède et tombe à terre. Ouf.
La porte s'est ouverte toute seule sans bruit. Vite, il sort. Il se trouve dans un couloir à plusieurs portes comme celle-ci. Long du couloir, d'où au fond il y a des escaliers de bois. Puis en descendant, ils deviennent de pierre. Et, ouf, enfin, c'est la sortie de l'immeuble. Ouf, il a eu chaud, mais fier de ce qu'il a fait. Une véritable aventure comme dans ses livres, et s'est conduit comme un héros. La rue est étroite et se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse. Il fait grand jour, doit être l'après-midi. La glace d'un cordonnier lui montre son visage, tout noir de poussière et suie. Regarde ses mains et ses vêtements, ils sont sales aussi. En continuant à marcher, non loin de là, il tombe sur une petite place avec une fontaine. Il décide de se laver un peu avec son mouchoir. Je lave la figure, donne un coup aux vêtements, se frotte bien et lave les mains.
Je cherche un emploi.
Se sent lent et a faim. Décide de s'acheter des gâteaux secs. Entre dans une boulangerie. En achète et ressort du magasin. Puis, Il va s'asseoir sur un banc et mange. Il s'endort. Se réveille, il a dû dormir un bon moment. La lumière du jour est moins forte. Il décide de marcher un peu. Tout en marchant, il se demande ce qu'il va devenir. Où doit-il aller? Sans le faire exprès, et comme toutes les rues sont noires en haut, il descend. Il se retrouve en bas des pentes. Là, il retrouve la circulation des beaux quartiers. Il se laisse aspirer par la ville et n'ose pas penser à l'avenir. Sa journée a été tellement... a eu tellement d'événements. Tout à coup, un fiacre s'est arrêté devant lui. La portière s'est ouverte. C'est son père. Entre. Il n'a pas eu le temps de réagir, qu'il est entré dans le fiacre et qu'il se met en marche. Son père lui demande « Tu faisais une promenade ?» Il rougit, il ne dit rien. Il ne doit pas connaître sa fugue. Puis, je rentre plus tôt que prévu. Cela va mal. L'empereur et l'armée sont en plein bourbier. Alors nous allons quitter Lyon, père. Attendons un peu. Et nous verrons. Ils arrivent vers chez eux. Au salon, il retrouve la mère et est surprise de les voir tous les deux. Elle dit
« Je me faisais un tel souci, je te demandais. »
Son mari l'arrête, la prend dans ses bras. « Tout va bien, nous sommes là. »
« Mon Dieu, quelle frayeur j'ai eue, si vous avez su que vous étiez ensemble. »
Elle soupire, reprend ses esprits et dit
« Allez, il est l'heure de dîner. » « Allez, dans votre chambre, vous changez. »
Elle regarde Jules et lui dit
« Regarde dans quel état tu es. On dirait que tu t'es battu. »« Tu t'es battu ?»«
Non, maman. »
Et il sort du salon pour aller dans sa chambre faire sa toilette. Une fois qu'il a ouvert la porte de sa chambre,
oh mon Dieu, la mallette!
J'ai dû l'oublier chez le fou. Que vais-je faire? Je ne peux pas y retourner, la police risquerait de me prendre. Et si la police la trouve et la ramène ici, je suis perdu. Durant leur repas, Jules ne pense qu'à la manette. Sa mère est prise par ce que lui a dit son père, qui lui donne des nouvelles de Paris, un Paris en effervescence. Jules, à 21h, va se coucher. Son lit, il repense à tout ce qui lui est arrivé. Et même au plaisir qu'il a eu avec l'homme. Il ne pensait pas qu'un adulte, qui pour lui est une personne sérieuse et qui se comporte d'une façon rigide, puisse avoir des besoins, faire comme les garçons. Et fait cela avec un enfant. Ceci le surprend, mais ne le dégoûte pas. Bien sûr, il est mieux que ces choses se fassent entre des jeunes de son âge. L'intervention de la police lui a fait comprendre que ce que l'homme a fait est formellement interdit. Après avoir pensé à tout ça, il s'est endormi. Mais durant son sommeil, il rêve à tout ce qu'il a fait. Il retrouve même le plaisir qu'il a eu avec l'homme. Mais aussi, il voit cette mallette de voyage qu'il a oubliée. Plusieurs fois dans la nuit, il se réveille en sursaut. Des coups donnés à la porte l'a réveillé. Entrez. Salut. Réveillé? Oui. Son frère s'approche du lit pour s'asseoir sur le rebord du lit.
Alors, où étais-tu hier?
Quoi?
Ne fais pas l'imbécile. On t'a vu de toute la journée. Où étais-tu?
Je me suis promené.
Charles André lui dit. Toute la journée?
Oui, j'en avais assez d'être enfermé.
Je comprends. Moi aussi j'étouffe. Mais j'attends, dès que je peux, je file vivre à Paris ou ailleurs.
Jules lui demande pour qu'il oublie de lui poser des questions. Et où iras-tu?
J'ai décidé, c'est de devenir écrivain.
Tu veux écrire quoi?
Des romans. J'en ai plein la tête. Des histoires d'amour interdites, impossibles. Un peu des sortes de contes pour adultes. Des histoires sans morale. Où un frère et une sœur peuvent s'aimer. Mais tu es trop jeune pour comprendre.
Je lui dis, Ne crois pas cela. Je suis plus mûr que tu ne le penses. Moi aussi j'ai mes histoires. Jean-André sourit et lui dit.
Tu as tes secrets. Hier, on s'en est rendu compte.
Et tu crois qu'en écrivant, on peut devenir riche?
Oui, bien sûr. Et puis, je n'écrirai pas que des romans. Je ferai des articles dans les journaux.
Je lui demande, des articles sur la guerre?
Non, sur les pièces de théâtre. Comme cela, je pourrais aller au théâtre gratuitement.
Tu en as de la chance. Mais père a dit que tu irais en pension.
J'irai peut-être en pension, mais j'en sortirai bien vite.
Comment?
En devenant insupportable, tellement insupportable qu'ils seront obligés de me renvoyer.
On a frappé à la porte.
Oui?
Entrez.
C'est la bonne. Monsieur, il est l'heure pour le petit déjeuner.
Jean Landré lui dit,
il faut y aller.
Il se lève. Et lui dit,
tu ne peux pas t'éclipser aujourd'hui. Père est là.
Et il sort de la chambre.
Durant toute la matinée, Jules est inquiet pour la mallette de voyage.
Si la police la trouve, je suis perdu.
Il reste bien sagement sur la terrasse du salon à faire semblant de lire.
À chaque fois que le portail s'ouvre, il y en a des sueurs froides.
Sa mère est venue s'asseoir près de lui. Il n'ose pas se lever.
Elle lui dit, ton père est allé à son bureau. Pourquoi es-tu parti hier sans rien me dire?
Je ne réponds pas.
Et ton père savait que tu as quitté la maison comme ça? Et qu'as-tu fait toute la journée?
Je me suis promené.
Promené dans les rues. Au risque de te faire attaquer.
Par qui, mère?
Elle hausse ses épaules.
Mais nous sommes en guerre et le peuple est en ébullition. En rien peut le mettre le feu aux poudres. Les ouvriers à Lyon sont si violents.
C'est canu. Il faudrait nous protéger des régiments dans tous les quartiers. Comme cela, ils resteraient tranquilles.
Je lui dis,
mais mère, nous ne faisons pas la guerre aux ouvriers, mais aux Prussiens.
Aux deux, mon fils, aux deux. Pour éviter l'anarchie, il faut que notre classe puisse continuer à diriger.
Qui a l'empereur pour cela?
Tu es trop jeune pour comprendre tout ça.
Elle se lève et dit, je vais préparer le repas. Et entre dans la maison. Au même moment, l'on sonne au portail.
Un domestique sort de la maison pour aller ouvrir. Jules inquiet regarde. Un homme en costume marine et casquette de taille moyenne porte à la main la mallette. Jules se lève d'un bond et va vers eux. L'homme dit au domestique,
« J'ai trouvé cette mallette dans le hall de la gare. Je l'ai ouvert pour savoir à qui elle appartenait. J'ai vu sur une enveloppe votre nom. »
Jules lui dit,
« Elle est à moi. Donnez. » »«
Que contient-elle ? » ?»«
Il y a dedans un livre, le tour du monde à 80 jours. »«
Tenez, monsieur. »
Jules prend le bagage. Ouf ! Mais l'homme attend. Il doit falloir lui donner une récompense. Jules n'a pas d'argent sur lui. Il demande au domestique.
« Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner à cet homme un pourboire ? Je vous rembourserai. »
Le domestique s'exécute. L'homme se retire. Jules se dirige vers la maison.
Il entre en faisant attention à ne pas être vu pour aller dans sa chambre.
Une fois dans sa chambre, il vide la navette. Il va la ranger dans l'armoire. Puis, il prend de l'argent pour le donner au domestique.
Ouf, la chose est faite. De cette aventure, il ne reste à Jules qu'un bon souvenir et des questions sur les comportements des adultes. Les jours passent. On ne peut pas dire qu'ils sont monotones, car malgré qu'ils ne fassent rien de spécial, l'actualité, le bruit de la guerre, la peur, les troubles, troublent leur vie. Seul le père seul sort pour ses affaires, enfin ce qui en reste. Charles, André, Jules, Apolline se font le plus discret possible. Dans la journée, ils restent sur la terrasse à lire. Les domestiques aussi suivent l'exemple des enfants et font leur travail en douceur. Comme la famille se couche tôt, Jules, dans sa chambre, essaye d'écrire. Il veut écrire ce qui lui est arrivé, en changeant les choses. Dans son histoire, c'est un jeune homme qui rencontre une belle femme. Il s'aime chez elle, mais malheureusement, c'est une voleuse de bijoux. La police vient la prendre au moment où ils sont au lit. Le jeune homme réussit à se sauver et ne saura jamais ce qu'est devenue la personne. Mais quelques années plus tard, alors qu'il est marié, un matin on sonne chez lui. C'est un homme qui vient rapporter au jeune homme son portefeuille qu'il avait oublié chez la jeune femme. L'homme l'a trouvé dans l'appartement qu'il a laissé quelques années plus tard. Le jeune homme repense à son histoire. Il veut revoir la belle femme. Il retourne dans le quartier, fait des recherches, demande aux commerçants, mais rien. Un jour, sa femme lui dit que sa sœur, qu'elle n'avait vue depuis des années, vient la voir. Lorsque le jeune homme voit la sœur de sa femme, il reconnaît la jeune femme qu'il a aimée. Elle le reconnaît. Elle dit à sa sœur qu'elle a eu du goût pour son mari et que son mari est charmant. Un jour, elle est venue leur annoncer qu'elle aussi se mariait avec un Anglais et qu'elle quittait la France. Le jeune homme est triste et lui dit en cachette de sa femme quel est son plus grand amour. Ils se quittent et ne se reverront plus. Jules a beaucoup aimé écrire cette histoire. En écrivant, il avait la scène devant lui et était le jeune homme. Le passage de la fuite par les toits, il l'a écrite d'une seule traite, avec fougue et sueur. Il revivait tout ce qu'il avait vécu, mais en plus fort, car en décrivant les scènes, il se rendait compte mieux du danger qu'il avait échappé, à quoi il avait échappé. La petite nouvelle à 17 pages, écrite d'une petite écriture, pointue et nerveuse, mais sans rature. Il n'a pas fait de plan d'un seul jet, dans un cahier d'écolier, à couverture noire, toilée. Il a mis deux nuits pour l'écrire.
Il referme le cahier et va le mettre dans un tiroir.
Tiroir de son bureau, puis se déshabille pour se coucher. À personne de ce qu'il a écrit. Après-midi, Charles-André a besoin d'encre pour faire ses devoirs de vacances. Il va dans la chambre de son frère pour prendre son encrier. Il regarde sur le bureau, ne trouve pas d'encrier. Alors, il ouvre le tiroir, trouve l'encrier et voit qu'il y a un cahier. Voyons les devoirs du petit frère. Il prend le cahier et l'ouvre. Il est surpris. Il voit que c'est une histoire. Dans le calme de la maison, toute la famille est sur la terrasse, la domesticité est dans les communs, il va s'asseoir pour la lire. Trouve l'histoire très bien, mais en même temps, il en est jaloux, car cela fait plusieurs mois qu'il essaye d'écrire et qu'il a toute la peine du monde à trouver un sujet. Et là, il voit que son petit frère a réussi ce que lui n'arrive pas à faire. Il soupire et se dit que la nouvelle est prête à être publiée. Depuis quelque temps, il ne rêve que d'être publié, que d'une nouvelle qui soit publiée, nouvelle à lui. Il connaît un éditeur prêt à le faire, à compte d'auteur bien entendu, mais pas très cher. Il referme le cahier et le remet en place.
Puis sort de la pièce.
Durant toute la journée, il ne pense qu'à la nouvelle de son frère et veut absolument en faire une aussi bien que la sienne. Pendant que les autres lisent en marchant dans le parc, lui reste assis à réfléchir à un sujet, mais n'y arrive pas. Le soleil, la lumière très forte, les couleurs trop vives, il y a le bruit. Et puis, le petit frère que l'on voit là, l'air si enfant, si insouciant. Comment a-t-il pu, lui, écrire une chose aussi jolie? Lui, qui est son aîné, qui est beaucoup plus mûr, ne peut pas le faire. Cela l'agace et ne l'aide pas à trouver un sujet. Certainement qu'un écrivain plus mûr de cet agacement en aurait fait une histoire. Puis il se souvient, mot pour mot, de ce qu'a écrit le frère. Durant le repas, cela lui coupe l'appétit. Il est dégoûté de l'appétit de son frère. En réalité, c'est lui qui voit Jules, heureux, joyeux, insouciant, lui et sa jalousie. Car en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence de caractère entre les deux frères. Ils sont tous deux taciturnes, timides, et comme beaucoup de timides, impulsifs. Apolline a observé Charles-André durant toute la journée. Elle a vu le regard morose. Dans la soirée, elle va s'asseoir près de lui, sur le divan. Elle lui demande « Ça va ?»«
Oui. » « On dirait pas. C'est-à-dire que je pense. »«
T'as des soucis ?»«
Non, je pense à une nouvelle que j'aimerais bien écrire. »«
Oh, et c'est quoi ?»«
Une histoire. »« L'histoire d'un jeune homme qui rencontre par hasard une jeune fille. »« Ils s'aiment, puis se perdent de vue, et puis ils se retrouvent pour ne plus se revoir. » Car la femme est la sœur de la femme du jeune homme. Ils s'étaient mariés avant de revoir la jeune fille. Voilà, c'est un peu... C'est comme ça, quoi. Ça paraît un peu court comme ça, mais je crois que je vais réussir à étoffer la chose. Il est un peu honteux d'avoir raconté cette histoire. Il regarde autour de lui pour voir si cette personne l'a écouté. Et Jules, il vient de lui voler son histoire. Apolline lui demande, « Cette histoire me plaît. Tu as commencé à l'écrire ?»«
Non, pas encore. » Il est tout rouge.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Les délires de la sublimation dont c'était la cinquième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP.
La CVRP, cinéma, vidéo, radioproduction, vous a présenté une cassette OB.
Canu. La radio utile.